Gaspard Ulliel, Pierre Ninet, un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque.
Crise de la quarantaine au masculin, c'est comme ça qu'on peut résumer l'idée de départ de ce film Rock'n'Roll.
Entre autres, oui, parce qu'elle est partie effectivement d'une interview que j'ai pu faire où effectivement une journaliste m'a dit pour de vrai que finalement j'avais une place aujourd'hui dans la société par rapport à la jeune génération, que j'étais devenu pas très rock, pas très sexy, et forcément du coup ça renvoie à ces positionnements de se dire mais ça veut dire quoi, ça veut dire que est-ce que je suis ringard, je suis has-been, je suis trop vieux, je suis donc c'est ça qui m'a enclenché ce sujet, parce que tout d'un coup on y fait vite des connexions, on y fait des connexions par rapport à ma position, par rapport à l'image, dans mon couple, dans mon travail depuis des années, à comment les gens me voient alors qu'ils me connaissent absolument pas, qu'ils savent rien de moi, mais qui se font une idée, à une connexion au niveau du jeunisme, par rapport à cette société dans laquelle on vit, où ça a une importance considérable et de plus en plus.
Quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi.
Ah ouais,
vous souhaite une longue et belle fin de carrière, salut.
Merci, au revoir.
Petit connard.
Ben voilà, on fait vite les connexions à tous ces trucs-là, et puis c'est ça qui nous a lancé sur ce film sur la crise de la quarantaine, et évidemment aussi ce constat de l'âge et de la peur de vieillir chez l'homme, dont on ne parle pas souvent en fait, et on en parle plus chez la femme.
Alors on l'a bien compris, hein, dans ce film, on suit la vie et les doutes de Guillaume Canet, mais le message du film, se veut universel, comme nous le rappelle Rodolphe Logat, le scénariste.
L'universalité du thème réside dans le fait que c'est avant tout une quête de soi, trouver qui on est exactement. Alors là, c'est déclenché par une interview, effectivement, qui d'un coup met le doute dans la tête du personnage, qui à ce moment-là est suffisamment fragile pour que ça ait des conséquences, au point de remettre en question un certain nombre de choses dans sa vie. Mais à vrai dire, ce qui peut toucher tout le monde, je pense, dans cette histoire, et c'était une vraie ambition de notre part, pour que ça reste pas juste un film autour du cas de Guillaume et Marion. C'est un film qui, effectivement, va raconter comment, à un moment donné, on se voit, comment les autres nous voient, l'image qu'on pense comprendre que les gens nous renvoient, et comment à différents moments dans notre vie, alors ça peut être des caps, ça peut être la crise d'adolescence, là, en l'occurrence, c'est autour de la quarantaine, donc on apparentera ça à la crise de la quarantaine, comment dans ces moments-là, où on est un peu fragilisé par des questions qu'on se pose, comment à ce moment-là on peut parfois mal interpréter ce qu'on nous dit. Et on a traité ça évidemment au travers du cas de Guillaume et Marion, qui d'un coup rend les choses encore plus évidentes du fait de leur exposition médiatique, et donc ça multiplie un peu justement le nombre de miroirs et de renvois comme ça d'images entre ce que, comme disait Guillaume, ce que les gens pensent savoir d'eux, ce que eux imaginent que les gens pensent d'eux, etc., etc., etc.
En sachant en plus qu'on est régi beaucoup par le mensonge et qu'on est à une époque où on nous ment surtout dans l'information, dans la politique, dans tellement de choses. Le mensonge fait partie prédominante en fait de notre vie. C'est-à-dire que même là, par exemple, l'exercice que l'on a pu faire dans ce film d'écriture, ce qui est intéressant, c'est que les gens voudraient savoir ce qu'il y a de faux, ce qu'il y a de vrai, mais qu'en fait, nous, on a eu une liberté immense dans la création et dans l'écriture de ce film, parce que on s'est dit que quoi qu'il arrive, même les choses vraies, les gens vont dire non, c'est pas possible, c'est faux, et que les choses fausses, les gens vont se dire ah, mais je suis sûr qu'il y a une part de vrai. Et de toute façon, c'est toujours le principe, c'est-à-dire que les gens, à partir du moment où vous dites que c'est faux, vont aller tordre le truc en disant que c'est vrai. Rodolphe parlait la dernière fois de l'exemple d'Isabelle Adjani quand elle était venue en 20h en disant mais non, je ne suis pas morte, je ne suis pas malade, je suis là. Les gens appelaient au standard en disant c'est pas vrai, c'est faux, elle est morte. Voilà, ça parle de soi, quoi.
Vous nous avez expliqué un peu le jeu de piste qui fait que l'histoire de cet homme qui vit cette crise de la quarantaine, c'est vous, Guillaume Canet. Puis il y a du vrai, il y a du faux, il y a les vrais parents. C'est facile de les convaincre.
Pas que les vrais parents, il y a mon agent qui est ma vraie agent, il y a mon producteur, il y a, je vais pas vous dire que mon urologue, parce que j'ai pas d'urologue attitré, donc il y a certains personnages fictifs quand même, mais il y a mes parents qui jouent vraiment mes parents. Alors d'ailleurs, ça a été assez amusant de réussir à les convaincre. Enfin, mon père, d'ailleurs, de convaincre de dire des saletés sur moi, parce qu'il en revenait toujours à vouloir être très valorisant et avoir un discours très, très gentil à l'égard de son fils. C'était très amusant de les faire jouer. Mais mon père avait joué déjà dans Ne le dis à personne. Ouais, il avait fait un petit truc.
Et dans ce film, ben, Guillaume Canet, il fait preuve d'énormément d'autodérision en cherchant à retrouver une attitude rock'n'roll. Et puis, on sent une sorte de jubilation à se mettre dans des situations parfois embarrassantes.
Bah oui, parce que c'est ce à quoi je suis confronté. C'est-à-dire que quoi que je fasse, les gens, ils verront ce qu'ils ont envie d'y voir. Donc, à un moment, comme j'ai été, et Marion aussi, et on a tous, d'ailleurs, tous les gens qui passent dans le film, que ce soit Gilles Lelouch, que ce soit Johnny Hallyday, que ce soit Yvan Attal, et c'est vrai que quoi que l'on fasse, les gens se font des idées, vous voient d'une certaine manière. Et donc, il y a un truc quand même assez jubilatoire de dire, à force de raconter vos conneries, bah moi aussi, je vais en raconter, et je vais vous raconter mon histoire. Vous voulez rentrer chez moi, je vais vous ouvrir la porte, je vais vous montrer comment c'est chez moi. Mais je vous dis pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si on est vraiment comme ça. Et c'est très jubilatoire.
Salut mon pitou !
Je comprends pas trop comment vous voyez, là, vous vous trompez.
Allez, hein. Bonne nuit, mon amour.
C'est très jubilatoire, tout d'un coup, de aussi un peu taper comme ça, ou gratter un peu, pour aller dire aux gens, mais arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte. Le fantasme, il est important, il est intéressant, d'accord. Mais voilà, c'était jubilatoire pour moi de montrer que souvent, 80%, 90% des gens qui vont faire des tapis rouges, le soir, ils rendent leurs bijoux au joaillier, quoi. Voilà, donc c'est ça. Alors peut-être que je casse un mythe et que je casse un truc de glamour. Mais moi, j'ai pas envie non plus que les gens pense qu'on n'est que des gens qui faisons des tapis rouges toute la journée. On travaille, on a un métier. C'est-à-dire que le matin, on se lève, on amène notre fils à l'école, on va travailler, on bosse, le soir, on fait à manger. Enfin voilà, c'est un travail. Aujourd'hui, la notoriété fait que le nombre de followers, on place Kim Kardashian et Marion Cotillard au même niveau. C'est pareil, sauf que non, c'est pas pareil.
Kim Kardashian fait beaucoup moins bien l'accent québécois.
Oui. Ça, c'est sûr. Je suis bien d'accord.
Parce que dans ce film, Marion Cotillard, elle vient de signer en fait pour jouer dans le prochain film de Xavier Dolan. Et pendant quasiment tout le film, elle s'exerce à parler avec l'accent québécois en utilisant les expressions québécoises. C'est vraiment complètement hilarant.
Alors vous nous l'avez avoué, hein, Joël, vous avez énormément ri en regardant ce film. C'est un film où les comédiens sont laissés aller à l'improvisation.
Mais figurez-vous qu'on a posé la question au scénariste, celui qui a coécrit ce film, Rodolphe Loga.
Non, c'était évidemment très écrit parce que la comédie nécessite vraiment une écriture très, très stricte, très rythmée, très, très musiquée, même au niveau des dialogues. Il n'y a pas eu beaucoup d'improvisation, il y a eu beaucoup de surenchère en fait. C'est-à-dire qu'on ne réécrivait pas les scènes, bien évidemment, mais voilà, une fois qu'une scène commence à prendre tournure et qu'on sent le rythme s'installer, on sent la comédie prendre, etc. Alors parfois, oui, on rajoutait un peu avec Guillaume, parce qu'on en discutait, sachant que moi, je cadrais le film en plus de l'avoir coécrit. Il y a forcément une phase de fabrication en direct, au moment où on le tourne. Mais non, à vrai dire, c'était très très écrit. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il voulait qu'on travaille, je pense, Philippe et moi, avec lui, sachant que, comme c'était un film sur l'autodérision, ça nécessitait aussi une grande complicité pour que, toujours, on soit, encore une fois, déjà dès l'écriture, dans la surenchère, pour que la comédie prenne, et puis que ça prenne de l'ampleur, parce qu'on voulait vraiment quelque chose de délirant. Et ça nécessitait, du coup, une grande confiance, de manière à ce que voilà, ce soit drôle, mais à la fois qu'il puisse être dans l'idée que ce soit toujours bienveillant malgré tout. Et même de son côté, lorsqu'il était lui-même à la base d'un certain nombre de scènes qui pouvaient le mettre dans des situations un peu saugrenues, ça lui permettait aussi de voilà, savoir jusqu'où il pouvait aller, parce que nous, et bien évidemment, non seulement ça nous faisait rire, mais on ne voulait pas non plus qu'il passe pour un imbécile. Même si parfois on était un peu partagé, mais à l'idée que ça puisse aller jusque-là. Non, mais oui, c'était très très écrit et surtout on avait très envie de rire, très envie de déconner. Et ça nous fait hyper plaisir là, depuis un mois qu'on fait la tournée, de se planquer dans la salle, d'entendre les gens rire, c'est énorme pour nous, sachant que voilà, ça fait maintenant un an et demi qu'on avait commencé l'écriture. Et à ce stade-là, bah, on est à trois dans un bureau, on se fait des vannes. Alors on se fait déjà rire entre nous, c'est déjà bien, mais bon, trois spectateurs, c'est pas suffisant. Donc là, on a la satisfaction de pouvoir voir que ces blagues qu'on se faisait entre nous font toujours rire aujourd'hui. Et ça, c'est un plaisir immense.
Voilà. Je pense, Joël, que vous avez également un petit peu chambré Guillaume Canet à propos de la guerre des photos qui les a opposées avec Marion Cotillard sur Instagram.
Oui, des images pas vraiment flatteuses hein, des comédiens. Marion Cotillard dormant dans le train, la bouche grande ouverte. Guillaume Canet en charentaise pour la moins honteuse, on va dire. Des images qui ont bien servi la promo du film.
Bah parce que ça sert totalement le propos. C'est tout ce que je raconte dans le film, en fait. Donc, ça m'amusait de m'en amuser. Et en fait, au départ, c'était pas parti pour ça, en fait. Je voulais lancer un rock'n'roll challenge sur les réseaux sociaux avec des photos de trucs qui sont rock et qui sont pas rock. Et en l'occurrence, des photos, mais pas qui nous concernaient, nous, en fait. Il y avait une photo de Chirac qui sautait par-dessus le métro, en fait. Vous savez, le truc du métro. Et puis, la photo. Donc, c'était rock. Et puis, il y avait Delanoé derrière qui est en train de chercher. Il y avait une photo de lui qui est avec son ticket qui trouve pas la fente pour mettre son ticket, et ça c'était pas rock. Et je voulais lancer ça à 2 semaines de la sortie du film. Puis quand on était dans le train avec Rodolphe et que c'était la première date de la tournée, Marion s'était maquillée, puis elle s'est endormie avec la tête en arrière et la bouche ouverte. Et on s'est dit, bah dis donc, elle commence bien la tournée rock'n'roll avec Marion qui est épuisée déjà. Et on l'a prise en photo et je l'ai foutue sur les réseaux sociaux pour rigoler. Et puis ça a pris un ampleur dingue. Elle a posté un truc que les gens ont pensé faux. Parce que ce qui est dingue, c'est que même maintenant, quand on poste des trucs vrais, bah, les gens se disent « bah non, c'est mis en scène, c'est pour de la promo, c'est des conneries », alors que c'était totalement vrai. Et puis du coup, ça nous a amusés parce qu'on s'est dit « bah ouais, effectivement, c'est une promo hyper intéressante ». Parce que tout d'un coup, ça sert totalement, donc j'ai totalement assumé le truc. C'est parti d'une connerie, mais ça l'est devenu, un outil promotionnel. Et je l'assume complètement parce que je raconte... En fait, ça raconte exactement ce qui se passe et ce qu'on, je vais pas dire dénoncer parce que c'est pas un film qui se veut moralisateur ou, mais qui raconte en fait une réalité et puis ce monde qui est très fermé, très recentré sur lui-même. Et c'est vrai que ce phénomène, comme vous le disiez, de se prendre en photo, ça raconte un truc très important quand même sur le manque d'altruisme et d'intérêt que l'on peut avoir pour la personne qui habite en face. J'arrête pas de la dénoncer, de lui mettre du poids sur la tête, la pauvre ma voisine. Mais j'ai une voisine qui, à chaque fois que j'arrive pour l'ascenseur, se dépêche de vite fermer la porte pour pas que je le prenne avec elle, et qui m'a quand même dit un jour que les gens comme moi, on n'avait pas besoin de prendre l'ascenseur, que quand on foutait rien de la journée, on pouvait monter les marches. C'est quand même... ça, c'est quand même aussi pour ça que ça m'amusait de faire ce film. C'était d'aller dans leur sens.